Damsberg.
Dangler. Et à un moment donné, je vous ai parlé de Rembrandt, vous vous rappelez?
Oui, vous m'avez dit que ça manquait de clair-obscur.
Voilà. Alors ce que je voudrais, c'est qu'on appuie sur la touche retour et qu'on revoie la scène tous les deux.
Eh bien, je vous ai dit que les aveux du vieux étaient limpides. Vous m'avez dit trop limpide, ça manque de clair-obscur. Il faut tout reprendre au début. J'ai fait la gueule et j'ai vu un coup de blanc.
Du clair-obscur, du blanc, mais du roman noir. Ce soir, dans le rendez-vous en direct sur France Culture et dans notre série 40 ans de chansons françaises, il sera question de l'Islande, de poker, de Robespierre, de néo-polar, de lutte des classes et même de Turner, avec Fred Vargas qui signe Temps glaciaire, une nouvelle aventure d'Adamsberg et d'Anglard, avec double ouverture histoire-géo entre Révolution française et mythe islandais. Benoît Lagan.
L'occasion d'ausculter avec Fred Vargas le rythme de ses romans, des romans d'énigmes travaillés dans la lignée des contes mythologiques.
À ses côtés, Patrick Mosconi qui publie « On ne joue pas avec le diable », un roman noir qui s'appuie sur un personnage cynique, joueur et homme d'affaires qui porte un nom de peintre, Turner. Benoît Lagan.
L'occasion de revenir sur le parcours littéraire et plastique de Patrick Mosconi, peintre romancier, notamment l'éditeur de toute la génération du néo-polar des années 80.
19h40, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Et ce soir, Xavier, le thème en sera...
Des trucs qui tombent.
Parfait. Je dis chaque fois parfait parce que je ne comprends rien. Et puis une session électropop avec Minuit, un groupe qui en rappelle un autre très Marcia Baila, avant la sortie en septembre prochain de leur premier album. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre sur le son du jour. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Il ne date pas du jour, c'est un son de 1959. On écoute Lonely Woman, la chanson d'ouverture du premier disque d'un certain Ornette Coleman. À l'époque, il est jeune saxophoniste, il a 29 ans. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Son premier instrument, il l'a acheté avec l'argent qu'il avait gagné comme cireur de chaussures pendant des années. Et il avait donc baptisé ce premier album sur le label Atlantique « The Shape of Jazz to Come », la forme du jazz à venir, un titre très ambitieux, un titre prophétique, puisqu'on considère que c'est le premier disque de jazz expérimental. Ornette Coleman, toute sa vie, ne cessera d'enterrer le jazz à la papa, comme il l'appelait, et d'explorer l'avant-garde. C'est ce qu'il a fait jusqu'à son tout dernier album paru début 2015, dont le titre montre bien son ambition intacte, puisqu'il s'appelait « New Vocabulary », nouveau vocabulaire en français.
Sauron has regained much of his former strength. He cannot yet take physical form, but his spirit has lost none of its potency.
Concealed within his fortress, the Lord of Mordor sees all. His gaze pierces cloud, shadow, earth, and flesh.
Et tout de suite, un autre son du jour. Vous avez peut-être reconnu sa voix dans ce son d'ouverture. L'acteur britannique Christopher Lee s'est éteint ce matin à l'âge de 93 ans. Il était la dernière grande figure du cinéma de genre des années 50 et il l'est resté jusqu'à la fin de sa vie, l'archétype du méchant.
Oui, et là, on l'entendait interpréter le sage noir Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, l'un de ses derniers grands rôles. Et pourtant, rien ne prédestinait Christopher Lee à devenir cette incarnation du mal, comme nous le raconte François Angelier, producteur de Mauvais Genre sur France Culture, qui a longuement rencontré Christopher Lee dans les années 90.
Christopher Lee n'est pas du tout un enfant de la balle, c'est un fils de militaire. Il a fait de très bonnes études universitaires, mais ce n'est qu'après la guerre qu'il commence sa carrière cinématographique. Mais dans des films où il n'arrive pas à percer, il joue avec Terence Young, il joue avec Laurence Olivier. Il a des petits rôles que lui valent son physique assez singulier, de grands personnages, haut comme une hallebarde, très maigre, rêvé pour ce qu'on appelle les seconds couteaux méchants ou les grands vilains. Et puis c'est en 58 que là, vraiment, les choses démarrent avec Dracula. Véritablement, il y a une sorte de rencontre miraculeuse entre son physique interminable et puis le personnage de Dracula qui était un peu en jachère.
Voilà, le cauchemar de Dracula de Lee Hammer sera son grand rôle. D'ailleurs, les journaux britanniques titraient aujourd'hui « Dracula est mort ». Il va tourner beaucoup avec le maître du fantastique dans les années 50 et 60. Il sera aussi le grand méchant dans plusieurs films de genre, mais cette fois d'espionnage, notamment dans James Bond. Et puis après un assez long creux, sa carrière reprend de plus belle. Au début des années 2000, malgré des problèmes respiratoires importants, il redevient une figure de premier plan et accompagne le renouveau du cinéma fantastique dans les films de Tim Burton, George Lucas ou Peter Jackson, qui le fait connaître des jeunes générations. François Angelier.
Oui, il a tourné jusqu'à la fin. Il avait eu une période, je dirais, de vache maigre à la fin des années 90. Entre 2001 et 2014, il a eu une fin de carrière éblouissante avec Le Seigneur des Anneaux, Star Wars et Le Hobbit. Donc, il a une très, très belle fin de carrière. Et d'ailleurs, très, très étonnante parce qu'avec des metteurs en scène qui l'avaient adoré quand ils étaient enfants et qu'ils voyaient les films de la Hammer. D'une certaine façon, c'était un peu ces petits fans qui étaient devenus grands et qui ont assumé sa dernière carrière.
Et pourtant, Christopher Lee ne voulait pas qu'on le résume à Dracula ni à Saruman.
Oui, il aurait adoré sortir du film de genre. Il a accepté beaucoup de rôles, même des rôles petits, qui auraient pu le faire sortir de ce registre. Il a tourné 227 films en tout. Il sera aussi producteur et il a d'autres passions, comme nous le raconte François Angelier.
Moi, je me souviens, je l'avais rencontré, la première chose qu'il m'avait dit, le plus grand rôle de ma vie, c'est d'avoir joué dans un téléfilm le fondateur du Pakistan. Bon, c'est un peu surprenant. Il a été Dracula, il a été une icône du cinéma de genre, mais il avait d'autres rêves, et notamment l'opéra. Et alors, il nous a chanté quelques airs d'opéra. Ça avait été un élève du grand chanteur scandinave Jussi Björling, et donc il a même enregistré un disque, je crois, avec les Américains, accompagné à l'orgue, où il entonne les grandes airs du répertoire lyrique. Et donc là, il nous a chanté un peu de Verdi. C'était très impressionnant d'être assis devant Christopher Lee vous chantant du Verdi. C'est un souvenir, comme on dit.
Voilà, vous pouvez bien entendu réécouter cet entretien de François Angelier avec Christopher Lee sur le site de France Culture. Il est en une.
Peut-être une réaction de votre part, Fred Vargas. Je crois que vous étiez fan de Christopher Lee. Ce que vous disiez tout à l'heure en off.
Oui, j'étais fan au point, enfin, pour les Dracula, quand j'étais jeune, je supportais mal qu'on dise oui, mais Bela Lugosi avant lui, hein, il était mieux parce que il a créé vraiment vrai Dracula de Bram Stoker, hein, je parle de l'écrivain. Il a créé un vampire qui était absolument avec la classe indescriptible de Christopher Lee, sa séduction, son sourire, pardon, qu'il ait une dent, des canines plus longues ou pas, les yeux, quand il regarde un tout petit peu de côté avec sa fausse raideur, je vais pas faire tout un description, tout le monde connaît, je crois, la silhouette et le visage de Christopher Lee. Mais du coup, son personnage de vampire qui faisait effroyablement peur, malgré une courtoisie et une onction parfaite, il faisait peur parce qu'on était séduit, homme ou femme. Et donc, il représente. Il a été celui. Pourquoi ça a été lui? On dit son visage. Il a un visage plutôt d'espèce de noble anglais, d'aristo. Et parce qu'il a réellement réussi, au lieu d'avoir juste un visage qui fait peur, qui inquiète, à montrer ce qu'est réellement dans l'imaginaire de tous les siècles, les siècles et des siècles, c'est que le Rome, etc. Un vampire, c'est-à-dire qu'un vampire, sa proie, ou lui ouvre la fenêtre et en tombe amoureuse. C'est toute l'ambiguïté, c'est pas juste un méchant, c'est bien plus compliqué que ça. Et lui, il le faisait à merveille, et dans sa Saruman, j'étais folle de joie. Déjà, Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une base. Je parle de celle de l'écrit de Tolkien, que j'avais très peur du film, j'ai adoré. Et retrouver Christopher Lee dans sa Saruman avec sa voix de basse. Là, l'extrait qu'on vient d'entendre, tu connais par cœur.
Patrick Moscovy.
Moi, j'ai pas tout à fait la même réaction, mais même si j'adhère à ce que tu dis, parce que c'est... C'est-à-dire que moi, je suis tombé sur Christopher Lee enfant. Ah oui, c'est un film que je ne devais pas voir, et ma mère, ce qui m'a... Et pour moi, ça a été le visage, l'image, j'ai pas pu rentrer dans la séduction, de la méchanceté, de l'horreur. Et je n'ai pratiquement pas vu lui, parce que pour moi, quand j'associe, quand on parle d'un criminel pervers à la radio, par exemple, j'imagine ce visage-là. Parce que ce souvenir s'est arrêté, je devais avoir quel âge, 7-8 ans, même pas. Et pour moi, le mal qui n'a pas le visage du mal, parce que ça, c'est un homme plutôt beau.
Ouais, très beau.
Un homme plutôt beau. Donc, comment on pouvait être extrêmement méchant et même criminel et avoir un beau visage comme ça? Moi, ça s'est arrêté à ce souvenir et je n'ai pas pu dépasser mon enfance.
C'est intéressant, voilà. Pour le rang policier, ouais. Patrick, mon ami. Ouais. Mais moi, je n'avais pas l'âge de
Fred
Patrick,
Vargas.
Donc je n'ai pas eu de trauma.
Ah oui, ça m'a terrifié.
Mais mon père, en bon surréaliste, m'a fait lire... Et le livre fait beaucoup plus peur que n'importe quel film. Hein. Surtout, en plus, le livre de Bram Stoker, le seul, l'unique. En plus, c'est un roman épistolaire. Il faut arriver à faire peur au lecteur avec un roman d'échange de lettres. Et moi, je l'ai lu à l'âge de 13 ans, quand même. Je suivais ma mère dans le couloir avec le livre. Et donc, j'étais marquée ouais, par Dracula. Et d'ailleurs, j'ai consacré un petit bout d'un polar.
À ce personnage ?
Non, au vampire.
Ouais.
Mais quand j'y pensais, pensais à Christopher Lee.
Zoé, on se retrouve lundi pour la suite de ce journal de la culture.
Avec plaisir, demain je ferai une petite parenthèse.
Ah mais oui, c'est vrai, demain on vous voit aussi avec le son du jour.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau étrange, étranger avec vous Fred Vargas, donc à vos côtés Patrick Mosconi. Vous êtes tous les deux invités au FIRN, c'est le Festival International du Roman Noir de Frontignan qui aura lieu du 22 au 28 juin prochain. Vous en serez la marraine, hein, Fred Vargas, marraine d'une édition qui a pris comme thématique étrange, étranger. Et c'est l'occasion de confronter les auteurs de Polar à la question politique des migrations au moment où l'on vient de passer le cap des 100 000 migrants arrivés en Europe depuis le début de l'année et où la création d'un centre d'accueil type Saint-Guette à Paris fait débat. Patrick Mosconi, dans ce cas, vous dirigez un ouvrage collectif dont les bénéfices seront reversés à la CIMAD, hein, l'association qui vient en aide aux migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. On y trouve Marin Le Dun, Jean-Bernard Puy, vous-même et Cesare Battisti. Comment a-t-il abordé, lui, la question ?
Là, vous parlez de Cesare ?
Ouais.
Bah, c'était parmi les auteurs, celui qui m'a répondu le plus rapidement et qui a fait sa nouvelle, mais d'un jet. Et après ça, très peu de retravail. Et ce qui est paradoxal, c'est que avec Fred, nous sommes allés voir Cesare quelques temps après.
Au Brésil.
Et voilà, au Brésil. Et puis bon, on a vaguement revu sa nouvelle, mais surtout, il a regardé la mienne. Et c'est lui qui a fait le directeur littéraire sur la mienne. Mais il dit à Patrick, tu déconnes.
Je me souviens de ta tête.
Ah ouais, parce qu'il dit non.
Je vais dire à Patrick que là, ça déconne.
Voilà, là, il dit mon frère, il faut vraiment, je peux te le dire à toi. Je dis, mais sois franc, personne n'ose me dire là.
Et ça déconnait où alors?
Bah, c'est-à-dire, il y avait toute une partie qui était beaucoup trop explicative. Et en fait, c'était beaucoup plus c'est beaucoup plus encore un petit peu un roman réduit qu'une nouvelle. Et donc, les rôles ont été inversés sur... Mais sur celle de Cesare, ça a été, comme il m'a expliqué, c'était une sorte de blues. C'est parti de cette rencontre. Cette histoire est un tout petit peu... Ouais, bon, il y a exagération de la réalité, disons, de sa réalité. Et il l'a fait très spontanément et très rapidement. J'ai été surpris. J'ai même eu peur quand je l'ai reçu aussi vite. Je me suis dit, oh là là, ça va être bâclé. Mais pas du tout. Pas du tout.
Fred Vargas, vous avez lu aussi la nouvelle. Vous vous souvenez donc de cette rencontre au Brésil ?
J'ai lu là-bas, au Brésil. Bah, on était, Patrick, ma soeur et moi, on était dans le même hôtel, une pousada plutôt, à Embu das Artes, près de São Paulo. On y va souvent, quand on peut, parce que c'est pas simple et tout. Et donc on s'est retrouvés tous les trois là-bas pour voir Cesare, sa femme, la petite et tout. Et bon, il faisait chaud et tous les après-midi, moi, j'en ai profité pour lire la nouvelle de Cesare, j'avais pas eu le temps. J'ai beaucoup aimé. Il a une... c'est très bon. Si je commence à parler de l'écriture de Cesare, c'est tellement...
Justement parce qu'on vous entend peu souvent sur cette écriture, oui. Fred Vargas.
Que ce soit dans cette nouvelle, je veux bien qu'on parle de cette nouvelle, ou dans ses romans,
ou dans ses romans, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse dans son écriture ?
Je connais à fond, tellement à fond, que comme maintenant, depuis qu'il a été pourchassé par l'Italie jusqu'aux confins du Brésil, où je maintiens, parce que plus personne s'en occupe, sauf Patrick, ma sœur et moi, où il est toujours pourchassé. Il faut voir les événements de mars, où un avion était affrété pour lui, direction Paris. Bon. Il a plus réussi à écrire en italien. Plus un seul mot dans sa langue, dans la langue du pays qui le faisait tant souffrir, au moment, il y a 11 ans, de l'extradition en France. Et il s'est mis à écrire en français. Et comme Cesare écrit de manière complexe, et dans la forme, et dans le fond, parce qu'il atteint des niveaux de pensée, tout d'un coup, dans une phrase, dingue, on passe du deuxième niveau du parking au sixième, d'un coup, si tu pourras nous prévenir, mon gars, on remonte par des escaliers, et il a une structure de roman, je dirais, on en parlait même pendant 4 ans, on le visitait, ma soeur et moi, dans le pénitencier de Papuda, au Brésil. On avait 5 heures de visite qui se réduisaient à 4 heures après la fouille et tout ça. On rentre pas comme dans un moulin. On discutait littérature. On a dit, bon, attends, d'accord, Fred, là, les papiers, tout ça, que tu dois voir un avocat, mais je voulais te poser une question, là, que je ne t'ai pas vu depuis 5 mois. L'histoire du point virgule, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, bon, c'est parti.
C'est génial.
Ah ouais, non, il est incroyable, hein, c'est... Et j'écoute, là-dessus, je suis très précise, mon grand. Bon, et on partait sur des trucs comme ça, mais je disais, expliquez à Cesare que Cesare a une écriture très profonde. Pour moi, c'est un véritable écrivain, hein, c'est pas un écrivain de polar. Enfin, non. Alors, moi, quelque...
Ah non, moi, pas vous, dit, pas bon, vous. Pas vous, Fred Vargas.
Non, mais des genres de... Un petit livre... voilà. Bon, bref. C'est un écrivain à la... À la... Bon, je ne vais pas faire de comparaison plutôt avec des écrivains noirs américains, mais plutôt du côté, donc, de Hemingway et tout. Mais en même temps, et Chandler... Ou, non, pas Chandler, non. James Cromley, avec quelque chose qui lui est propre, fatalement, hein, sinon ce ne serait pas un écrivain, qui nous fait comme ça des phrases de vie quotidienne qui viennent se mêler comme des cheveux, c'est très fin, hein, comme matière à c'est difficile, hein, de parler de
l'écriture
à l'autre, à des éléments d'une profondeur. Tout d'un coup, on s'arrête, on relit, non pas parce qu'on n'a pas compris, comment on était passé directement que le héros était en train de faire la cuisine, alors là, son plat italien, tout ça, ça s'est resté en revanche de l'Italie. À tout d'un coup, des phrases, alors je vais dire bêtement, sur la vie, sur l'existence, la mort, les pensées, et tout. Et hop, on repasse, qu'il met son plat au four et tout. Et je dis à Cesare que ces histoires où il y a une vraie narration, et puis il y a d'autres narrations qui s'en mêlent, sont construites en boules. C'est-à-dire que pour moi, c'est fait par... Bon, en prenant de la pâte à modeler, puis les boules s'ajoutent les unes après les autres. Et c'est pas, pour moi, des récits linéaires construits comme Tintin ou comme les romans à la con de Fred Vargas, c'est-à-dire le lendemain... Non, bah, j'ai le droit d'expliquer ce que c'est que le linéaire.
Oui.
Le lendemain matin, le commissariat d'âme, le commissariat était vide ou je ne sais pas quoi, et l'après-midi et le lendemain et ceci et cela. Et Cesare me dit, mais mon rêve, Fred, c'est d'écrire en linéaire. Je dis, moi, mon rêve, c'est d'écrire en boule. Alors, on s'en sortait plus.
Il y a une petite chose qui est importante et qui peut expliquer l'écriture de Cesare, c'est qu'il navigue sur... dans sa tête, sur 3-4 langues. Bon, comme il a 3-4 langues dans sa tête, il est obligé d'avoir une création qui dépasse la langue et le vocabulaire pour retrouver après ça une langue et y travailler. C'est-à-dire que c'est presque métaphysique, c'est-à-dire que c'est le mouvement d'une pensée ou le mouvement des situations, et après ça, il tâtonne. Mais ce mouvement se fait quand même en italien de l'enfance, en espagnol, en portugais et en français. Je parle dans sa tête. Il est obligé, avec toutes ces influences-là, de penser autrement. Nous, on pense ce sujet...
Il pense au-dessus de la langue.
Voilà, il s'en va là, au-dessus de la langue, obligé de trouver au-dessus de la langue. Il faut qu'il pense... Donc c'est une poésie. Et à cette poésie, il faut qu'elle se traduise en roman après. Voilà.
Et d'où la difficulté, imaginez pour moi, de mettre un manuscrit de Cesare. Je l'ai fait 2 fois, là, pour ma cavale et puis pour au pied du mur. Face au mur, ça a été traduit chez Flammarion. En français, c'est-à-dire son fritalien en français. Et en français correct, on va dire, parce que bon, je ne peux pas laisser des phrases qui ne tiennent pas debout, parce que ça tient en même temps du lusophonisme portugais, du brésilien, de l'italien, du français. Et quand je le mets en français, où j'essaie de pas du tout toucher le moins possible à ce qu'il voulait faire, et des fois j'ai une perte de matière qui arrive, et c'était mieux dans cette langue étrange, c'était mieux, mais je ne peux pas le laisser.
C'est vrai que j'ai pas touché sa nouvelle, c'est pour ça.
Dernière question sur César, justement. Juste une question politique. Vous aviez été très dur envers François Hollande il y a quelques années. Vous aviez lâché, je vous cite, tous les gens qui ont adhéré à la cause quand elle était populaire et qui ont retourné la veste quand le vent a changé, à propos de François Hollande. Où souffle le vent depuis qu'il est à l'Élysée?
J'aimerais le savoir. Parfois, je mouille mon doigt quand on est pour savoir d'où vient le vent et où il ira. Il serait urgent que Cesare soit réaccepté en France avec cassation du jugement d'extradition de la Cour d'appel sur le fait des éléments nouveaux et le fait qu'il a été représenté en Italie pendant tous ses procès avec des faux mandats, ce qui interdit absolument son extradition, selon la loi, depuis Louis XIII. Donc ce n'est pas une invention là, comme il vote à l'Assemblée, c'est séculaire. Personne ne s'en occupe, on ne sait pas comment faire. Seul l'exécutif pourra demander... une reprise de ce procès en cour d'appel pour Léon Nouveau pour essayer de faire revenir enfin Cesare dans le pays de ses enfants, dans le pays qu'il aime, qui est la France, son petit café du coin du 9e. Il est mal là-bas, parce qu'il est mal, parce que l'Italie et le Brésil de droite et d'extrême droite continuent à essayer de l'extrader. Et comme a dit le procureur de Brasilia il y a un mois dans une interview, un petit journal italien, ce n'est qu'une question de temps.
Le rendez-vous. Le rendez-vous, la session.
Fred Dargas et Patrick Mosconi, on vous retrouve dans quelques instants, sauf si les musiciens font tout tomber derrière nous. Des quais du polar et du roman noir, on passe au flash pop électro-rock de minuit, une programmation de notre réalisateur Thomas Beau. Et c'est une avant-première pour cette semaine de 40 ans de chansons françaises dans le rendez-vous, parce que c'est le groupe Minuit, un groupe qui, on vient de l'apprendre aujourd'hui, fait partie des 5 finalistes des Un Rock Lab. Donc bravo à tous. On vous écoute. Premier single, c'est Flash en direct et en avant-première, puisque le EP ne sortira qu'en septembre prochain. Benoît ?
Clément Aubert est à la basse, Tanguy Truet à la batterie, Joseph Delmas et Raoul Chichin aux guitares et Simone Ringer à la voix. Donc vous êtes en direct sur France Culture. Minuit, c'est à vous.
Flash!
C'est bien. Minuit en direct sur France Culture. Alors en attendant leur repas pour septembre chez Because, Minuit sera en concert au Montreux Jazz Festival le 3 juillet, à la Philharmonie de Paris le 8, au Festival Musilac à Aix-les-Bains les 9 et 13 juillet.
Simone Ringer nous a rejoint juste pour quelques questions. Pour ce groupe, donc Minuit, quelles sont les références musicales que vous aviez tous en commun ?
En commun, non, on avait un goût de la musique de manière générale. Après, chacun est vraiment venu avec son univers. Après, on se retrouvait dans des choses comme David Bowie, Prince, assez généreuses de manière.
Toute cette semaine, notre invité de la veille pose une question à l'invité du lendemain. Hier, nous recevions Nash de la famille Chédid. Et elle a bien sûr cette question pour vous, Simone Ringer, qui jouait avec votre frère Raoul Chichin, les enfants d'Erita Mitsuko. Question de Nash.
Comme vous, je joue avec ma famille et j'adore ça. Et je trouve que c'est un sentiment assez particulier quand on joue en famille. Donc, qu'en pensez-vous et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Oui, c'est un
Simone
plaisir.
Ringer.
C'est un plaisir de jouer en famille et c'est quelque chose d'assez naturel. En plus d'être de la même famille, on est amis, on s'apprécie beaucoup. Donc, non, c'est plutôt une richesse.
Une question pour Diziz, qui sera notre invité de demain.
Oui. Bonne question. Rappeur, non, je vois très bien. Est-ce qu'il pète encore les plombs ? Voilà.
Très bien. Fred Vargas, juste un mot, peut-être en écoutant, j'imagine, Simone Ringer, il y a quelque chose de la voix de sa mère que l'on peut retrouver.
Évidemment,
bien sûr. Je sais que vous avez
Moi,
fait un
tournoi. De toute façon, on ne se construit pas. Si on ne se construit pas sur des pyramides séculaires, je reprends, dont le dernier petit étage. Généralement, bah, les parents, hein, moi, mon père, Dracula, machin et tout. Le polar, pas du tout, en revanche. Et bon, bah, on entend Erita Mitsuko, pour laquelle j'ai une gratitude tellement j'ai dansé des centaines, des milliers de fois. Ça nous, au moment où, quand une soirée s'affaisse, c'est moi-même maintenant, quand une soirée s'affaisse, toc, on le met, toute génération.
Tout le monde y va.
Et c'est pas parce que c'est le gros tube qui marche, parce que c'est. Évidemment, musicalement, c'est parfait. La voix incroyable, parce qu'elle nous a sorti à cette époque comme une espèce de déchirement. Et parce que y a une puissance dans cette chanson, il y a une profondeur, y avait tout. Et ça rendait triste, en plus, et heureux, parce que si on prête trop attention aux paroles. Et j'ai beaucoup de gratitude pour les centaines d'heures dansées.
Vous avez écrit des chansons vous-même ? Vous qui avez joué un temps de l'accordéon ?
Oui, mais...
Eh oui, Fred Vargas.
Certes, c'est ce que j'aurais aimé faire. Moi, j'ai trois métiers manqués, mini. J'aurais voulu, moi, pouvoir animer ou créer spontanément des balles à l'accordéon. Bon, allez, hop. Ah bah oui.
Oui, non, mais je vous écoute. Ouais.
Donc, je ne suis pas démontée. Dès l'âge de 14-15 ans, je me suis acheté un petit accordéon. Au début, c'était des diatoniques, c'était pas cher. Mais alors là, c'est encore beaucoup. Bon, c'est pas un instrument à négliger parce qu'on ne voit pas ses mains, hein, sur les claviers. Donc, c'est pas simple.
J'avais jamais pensé
je parle
à ça,
de l'accordéon bouton, ouais, en plus, ouais. Encore. Parce qu'on n'a même pas les repères des noirs et des blanches de l'accordéon piano. Bon, puis j'ai joué comme je ne sais pas lire mi sur la clé de sol. Et puis, quand j'ai joué toute seule, et bon, c'était pas fameux, mais je me faisais des trucs pour des copains aussi. Des fois, je partais à un festival de polar avec mon accordéon sur l'épaule, ça pèse. Hein. Mais quand mon fils, non préparé à 5 ans, m'a sorti tout de go en sortant d'un petit concert où je l'avais emmené un dimanche pour cultiver l'enfant, où il y avait un orchestre de chambre donnant les inévitables et magnifiques 4 saisons de Vivaldi. Il est sorti, puis il s'est mis à me chanter toutes les notes. Alors là, je mis genoux en terre sur le trottoir et je dis, comme si j'avais dit où t'as eu ta dope, je dis où t'as appris les notes des 4 saisons. Et elle m'a dit, mais là, c'est un do. Mais entre les notes, il avait l'impression d'avoir fait une faute. Moi, j'ai dit là où c'était des notes. Moi, je sais que le mi. Je t'emmerde quand même. Et il m'a dit.
Vous prenez tous les accents.
J'ai pas le temps de les dire parce qu'entre les notes, il y a des petites notes que je connais pas le nom et que j'ai pas le temps de dire. C'est entre le do et le ré et tout. Je dis d'accord, les dièses, les bémols. Là, bon, je lui dis viens, mon garçon. Je suis rentrée. J'ai pris l'accordéon. Je l'ai rangé dans un petit coin. Je dis t'énerve pas. Mais ça avait déjà. Et j'ai pratiquement plus touché, avec un gros regret. J'aurais aimé aussi être fermier. Et.
Mais ça ne s'est pas fait.
Plombier. Mais c'est vrai. Hein.
Mais oui, oui.
plateau Révolution islandaise avec
vrai,
vos frères.
Dans un hôtel, quand la chaise d'eau marche pas, hop, je la répare. J'essaye. Mais maintenant, les matériaux à l'intérieur, ces petits bouts de plastique qui se cassent, c'est plus comment.
Plateau Révolution islandaise avec vous, Fred Vargas, la créatrice en 1991 du célèbre commissaire Jean-Baptiste Adensberg et de son second Adrien Danglars, qui sont les héros encore aujourd'hui d'une nouvelle enquête, Temps glaciaire chez Flammarion, 11e roman, je crois, de la série, ou 10e, enfin ça dépend des articles.
J'ai écrit 15 bouquins, mais parce que j'ai commencé avant ça, hein, par un bouquin qui était une merde incroyable en 86, qui a eu le prix de Cognac. Non, c'était génial ce prix parce que j'ai rencontré Robert Mitchum. Ah, c'était un festival du film noir. C'était grand, quoi. Et il m'a embrassé sur le front. Voilà. C'est pour ça que mon front est noir depuis, parce que je me l'avais.
Je confirme.
J'adorais Robert Mitchum. Et donc, oui, donc Adamser, je l'ai fait au quatrième, à Rumpole 4, ouais, je crois. Quatrième bouquin, je l'ai fait rentrer. Bon, donc ça doit faire, je sais pas, plus la BD, ça doit faire 15 trucs, quoi. Parce que moi, je travaille toujours en même temps. J'ai toujours deux formations, historienne et archéozoologue.
Ouais,
non, c'était mon métier, ouais, jusqu'à l'affaire Battisti, en fait. Et là, j'ai cliqué sur un autre registre.
Dans cette nouvelle enquête, Adamsberg se retrouve confronté à une série de meurtres après un curieux suicide. Des meurtres qui vont le guider dans une nouvelle épopée entre histoire et géographie. Alors pour l'histoire, il est notamment question d'une mystérieuse association de fanatiques de Robespierre. Et c'est l'occasion pour la médiéviste que vous êtes de nous raconter la terreur révolutionnaire. Et pour ce qui est de la géographie, eh bien vous envoyez votre personnage en Islande, où vous n'êtes absolument jamais allé.
Jamais.
Qu'est-ce qui vous attire dans ce pays, vous qui considérez le roman policier dans la lignée des contes et des mythes, pour la dimension cathartique?
Oui, après, je peux forcer de mettre un mythe et tout. Généralement, il débarque, je ne l'ai pas sonné. C'est-à-dire que je n'ai pas fait une théorie que j'applique. J'essaye d'appliquer rien du tout pour ne pas tomber dans une répétition, un maniérisme, un système, etc. De toute façon, je n'y arriverai pas, parce que quand vous me demandez... J'ai du mal à me faire comprendre là-dessus pourquoi Robespierre, pourquoi l'Islande. C'est pas moi qui choisis les idées, c'est les idées. Si je les choisis moi, elles marchent pas. La greffe ne prend pas. C'est des idées qui me tombent dessus. Je leur dis, toi, Robespierre, écoute, t'es gentil, Maximilien, mais j'écris un roman policier contemporain. Donc, tu prends tes souliers et ta perruque et tu t'en vas.
Et bien sûr, il y aura d'autres choses
entre nous, si tu veux, sur la terre et tout. Mais comment t'en es arrivé là? Mais ça, c'est autre chose. Rien à voir. Donc, je lui dis au revoir. Un drame en Islande. Connais rien à l'Islande. Pourquoi en Islande? Aucune idée. Je lui dis non, pas question. En plus, j'aime pas avoir froid. Et puis, après, il s'écoule la fatale année et demie, 2 ans. Et les deux idées, comme du liseron. Là, en plus, il y en a deux d'un coup qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et qui ne pouvait pas déboucher, surtout Robespierre, sur un roman policier qui se passe aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de... Donc j'étais quand même dans un embarras assez... Et puis, si je dégage pas ces idées qui me... Attendez, j'entends pas des voix.
Non, non, mais on a bien compris.
Soyons clairs.
Oui, oui.
Donc je me dis, bon, je vais chercher une autre idée. Des idées, il y en a des millions, et pas de raison que j'en trouve d'autres. À ce moment-là, je dis... Et tout d'un coup, j'entends Robespierre. Et toi, c'est énervant, quoi. Moi. Donc au bout d'un moment, il faut que je leur fasse un... Faut que
ça
sort et je dis eh ben c'est ça le sujet, on y va. Et au fur et à mesure du roman, il y a des choses, mille choses imprévues qui
et la greffe prend
qui arrive. Bah prend ou moi je pensais que là ça prendrait pas quand même. C'était entre Robespierre et l'Islande.
Comment ça marche?
C'était pas facile.
Ça marche. Vous êtes obsédé par le rythme de vos livres. À ce sujet, vous avez dit dans un entretien que tous vos romans tournaient autour des 600 000 signes et que vous angoissiez à l'approche des 150 000 signes, soit au quart du livre. Vous savez pourquoi?
Ah, vous parlez de ce rythme-là. Je pensais que c'était le rythme de chaque phrase, la matière, le son,
ce rythme-là, mais il y a aussi. Ça, bien sûr, ça c'est du domaine de l'écriture, mais là de la construction, véritablement. Pourquoi autour des 150 000 signes?
Non, je m'aperçois qu'une fois le bouquin fini, il fait entre 550 et 600 000. En fait, il fait plus, mais après, je coupe tellement là-dedans. Il faut dévaster, hein, parce qu'il y a du trop. Mais vers la page, comme je n'ai pas de guide, comme je n'ai pas de plan, un jour, je me suis dit, tac, tu fais comme Elroy, pof, tu as ton plan. Je fais un plan. Et bien, dès les premières phrases du premier chapitre, je ne l'ai pas suivi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et quand je fais un plan, moi, je m'ennuie. Alors après, ça devient comme... Je bouche les cases, comme ça, je remplis. Noircissant en bleu, les cases... Non, alors, je pars comme ça. J'ai toujours l'impression de partir en bateau. Je ne fais pas de bateau non plus. Hein. Sur un canot, plutôt. Hein. Soyons modestes, pas un yacht. Hein. Sur un petit canot à moteur et tout. Je pars, je vois encore la côte. Et il y a un moment, je ne vois plus. Je me dis, ça se trouve, ça s'arrête à 2000 signes. Voum. panne de moteur, de voile, c'est la fin de l'histoire. Je suis incapable de... Donc, je me dis, oui, mais il y a encore ce meurtre à mettre et ce meurtre à mettre. Donc, je rajoute pas un meurtre en plus. Hein, il y en a déjà assez, quand même. Et puis, finalement, il se passe à un milieu de livre. Je me dis, là. Donc, normalement... Et l'angoisse, oui, c'est de faire... je vais pas faire un gros livre. Moi, je m'en fous s'il est petit, il est petit. Mais puis, finalement, tout d'un coup, je me dis, mais j'aurais jamais fini. Il va faire un million de signes. C'est l'enfer, quoi. Le genre, le best-seller des plages. J'ai horreur de ça aussi. Et puis finalement, il se termine toujours vers 640. Après, ça me donne de la marge pour couper tout l'inutile, l'excès, les maniérismes, les fautes, tout corriger et tout. Je sais pas, ça tombe toujours sur cette longueur. Peut-être la prochaine fois. Et je sais pas faire une nouvelle, en revanche, que ça papote tellement dans les livres et le temps qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire et de vivre. Et moi aussi. On ne peut pas faire une nouvelle, comme tu les aurais, la pauvre, il dépote un truc grandiose. L'avant-dernière, ça a été super. Et moi, j'adore ce que j'ai vu dans le livre de, dernier livre de Patrick Mosconi. Ce que
dont
j'adore
on va parler le plus dans quelques
quand
instants.
Je, non, mais ce que j'adore le plus quand je lis, c'est lire des choses dont je sais parfaitement que j'en aurais été incapable. Ça, c'est mon plaisir. Et donc, j'adore les nouvelles aussi. Et le livre de Moscou, c'est comme ça que j'appelle Patrick Moscou, peu importe. On se connaît depuis si longtemps. J'adore, et il y a des passages, je relis, par exemple, le cynisme du personnage, comment il l'a décrit. Je dis, j'aurais
Turner.
Jamais été capable. Là, gentil. Non, j'aurais jamais été capable. Là, je relis comment il a fait, comment il a pu le créer, comment il a pu le décrire, alors qu'il est tout sauf un cynique. Comment il a fait ?
J'adore, on verra ça tout à l'heure avec
j'adore lire. C'est-à-dire, donc, à peu près tous les livres du monde, hein. Dans ce cas-là, quand je dis j'adore lire...
Sauf les best-sellers sur la plage.
Ce que j'aurais pas été capable de faire, à ce moment-là, ça, c'est des millions de livres, hein, forcément. Sur le restant.
Le rendez-vous, la chronique.
Tout de suite, la chronique du jeudi, en partenariat avec Rue 89, dont vous êtes le rédacteur en chef, cher Xavier Delaporte. Aujourd'hui donc, au programme, des choses qui tombent.
Oui, vendredi dernier, la DARPA... L'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, c'est une agence américaine qui d'ailleurs est à l'origine des recherches qui ont mené à la création d'Internet. Donc la DARPA a organisé un concours de robots humanoïdes à Ponoma en Californie. 24 équipes regroupant plusieurs nationalités se sont affrontées pour décrocher un prix de 2 millions de dollars. Il fallait faire exécuter à un robot humanoïde, donc doté de bras et de deux jambes, 8 tâches en moins d'une heure. Alors ces épreuves, parmi ces épreuves, conduire une voiture, en sortir, ouvrir une porte à poignée, rechercher une vanne qui fuit et la fermer, percer un panneau en béton à l'aide d'un outil, se déplacer sur un terrain encombré d'obstacles ou monter un escalier.
Quand vous avez dit qui fuit, j'ai vu tout de suite l'œil de la plombière de service, Fred Vargas, voilà. Qui était intéressé.
Qui a un avenir de robot humanoïde donc. Vous vous dites sans doute que le choix de ces épreuves est assez étrange et moyennement sexy. Par exemple, on ne peut pas dire que percer un panneau de béton à l'aide d'un outil soit ce qu'on peut rêver de voir faire un robot. Mais il y a une raison à ce concours, une raison très pratique. À la suite de l'accident nucléaire de Fukushima en 2011, on s'est aperçu que pour entrer et se déplacer dans un bâtiment contaminé par l'uranium, il fallait mieux envoyer des machines. Et qu'il fallait mieux que ces machines soient humanoïdes pour se mouvoir correctement et agir dans des espaces fabriqués pour l'homme. Alors, je passe sur le paradoxe que ce soit l'hypothèse d'un accident nucléaire qui nous pousse à construire des doubles mécaniques de nous-mêmes, comme si nous devions nous préparer à ne plus pouvoir occuper notre monde et prévoir que des clones mécaniques puissent l'habiter à notre place. Bref. À Fukushima, donc, les robots serpents dotés de caméras envoyées par les Japonais se sont très vite révélés inutiles, enfin utiles pour voir ce qui se passe, quand ils ne tombent pas en panne et restent coincés comme c'est arrivé dernièrement, mais un peu moins quand il s'agit d'ouvrir une porte, de percer un mur ou tout simplement d'appuyer sur un bon tout. Bref, ce concours organisé par la DARPA est lancé il y a 3 ans déjà pour que les équipes aient le temps de travailler, avait donc pour but de faire émerger des machines efficaces et de trouver des solutions à ce problème. Et c'est un robot coréen qui l'a emporté, il s'appelle U-Bot pour Humanoid Robot. Il mesure 1m80, pèse 80 kg, un peu comme vous, Laurent. Il a devancé respectivement de 6 et 10 minutes ses deux plus valeureux concurrents des robot américain. Mais c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler.
Bien entendu.
Ça fait 3 minutes que je parle, mais c'est pas ça le sujet. Depuis la fin du concours, ont circulé de manière presque virale sur les réseaux des images de ces robots, essayant donc de remplir les tâches voulues par le concours. On y voyait des images assez étonnantes de robots conduisant une voiture. Et ça fait drôle, un robot qui conduit une voiture tout seul, hein, montant un escalier, alors avec des méthodes pas toujours académiques, par exemple le saut de marche en marche, étant parfois plus efficace que la montée en jambes alternées, comme nous la pratiquons en général. On y voyait aussi qu'une tâche que quand nous sommes en forme, nous réalisons assez facilement, comme ouvrir une porte avec une poignée par exemple, était très compliqué pour un robot qui pouvait mettre jusqu'à une dizaine de minutes pour y arriver. Mais ce ne sont pas ces images non plus
qui sont sujet de votre chronique.
Bien entendu. Parce que c'est pas celles qui ont pu le circuler. Les images qui ont été partagées et qui ont animé la conversation, ce sont des chutes. Ce sont les images d'un robot en train de monter un escalier qui tombe en arrière tout doucement et reste coincé sur le dos comme une tortue, d'un autre qui, au moment d'ouvrir la porte, s'écroule en arrière aussi, ou le Must, le robot qui, au moment de descendre de la voiture, se met à trembler de tout son corps et particulièrement ses jambes, et tombe face contre terre avec une rectitude enviable. Et c'est drôle, vraiment. Et étonnamment, c'est encore plus drôle que les vidéos de gens qui tombent. Et Dieu sait que j'aime les vidéos de gens qui tombent. Elles sont mon principal remède contre la déprime. C'est dire que je ne me coûte pas cher en psychanalyse. Dans ces vidéos de robots, ce qui est drôle, c'est aussi le contexte. Celui de robots créés par des ingénieurs de haut vol, dotés souvent de centaines de milliers de dollars, qui échouent à dépasser des problèmes d'équilibre élémentaire. Ce qui nous fait rire, c'est aussi, je pense, voir s'écrouler celui qu'on présente comme notre concurrent de demain. Ce robot qui va faire notre travail, qui va conduire notre voiture, qui va faire la guerre, qui déjà calcule plus vite que nous, se dirige mieux, a plus de mémoire, et bien ce robot là, quand il doit descendre de voiture, il se casse la gueule comme une merde. Mais comme l'explique le magazine Wired dans un joli papier intitulé « Arrêtez de vous moquer de ces maladroits robots humanoïdes », rira bien qui rira le dernier. Car si ces robots sont maladroits et donc comiques, c'est parce qu'ils sont humanoïdes. Construisez-les autrement. Et ils courent plus vite que nous, montent un escalier en 2 secondes, défoncent une porte, n'ont jamais d'accident en conduisant. C'est parce qu'on échoue à faire des robots à notre image que nous rions. Et au fond, c'est donc de nous dont nous rions, nous les piètres des Murges.
Merci Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une même étude anthropomorphique. Plateau Poker Menteur avec vous, Patrick Mosconi, vous êtes écrivain, scénariste, plasticien et même éditeur. Vous signez chez Kalman Levy « On ne joue pas avec le diable ». L'histoire tourne autour de Turner, qui a donc fasciné Fred Vargas, un homme d'affaires, joueur au casino, séducteur cynique des femmes qui finit par pousser dans le lit de son chauffeur Rachid. Mais ce jeu va déraper avec Elena, c'est la compagne du chauffeur, qui décide de prendre Turner à son propre jeu et de se laisser séduire pour mieux le piéger. Bref, une comédie humaine en forme de lutte des classes, véritablement. Quel a été le point de départ du roman ?
Exactement ça.
La lutte des classes. Non, oui, donc, oui, un truc appliqué.
Oui, parce que même le sous-titre du livre que j'ai retiré, c'était « Moment dérisoire de la lutte des classes ».
Ah oui.
C'était le sous-titre. Et bon, ça faisait un petit peu trop.
Basacien.
Voilà. Bon, non, c'est vraiment ça. Mais ça, ce n'est que l'histoire. C'est-à-dire que, pour raconter cette histoire-là, moi, on va revenir à la création au départ. Parce que moi, je ne me sens pas du tout comme Fred. C'est-à-dire que quand je crie, je me sens musicien et non pas écrivain.
Eh ben, moi aussi, je parle de la musique.
Je parle de la technique. C'est-à-dire que je pense beaucoup aux choses avant et c'est imprécis. Comme des musiciens, il y a des riffs par là, mais il n'y a pas d'histoire. Et à un moment donné, pour de multiples raisons, je rentre en studio. C'est vraiment ça, je rentre en studio et là j'y vais. C'est-à-dire que j'écris la chanson, c'est vaguement... Donc, à l'inverse de toi, je vais jusqu'au bout de l'histoire dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai le mot fin. C'est ça la différence. Mais évidemment, j'y vais jusqu'au bout dans ma tête. Mais quand je l'écris, ça change. Parce que ça ne devait pas se terminer comme ça, théoriquement. Mais toujours, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés. C'est-à-dire qu'un premier. Moi, personnellement, je lis beaucoup et je m'ennuie beaucoup en lisant.
Ah, contrairement à Fred Vargas.
Je m'ennuie
énormément et c'est pour ça que je suis si obsédé quand j'écris par la notion de rythme, de tempo. Et que le livre soit très très sophistiqué ou qu'il soit très très sophistiqué ou des détails du quotidien, peu importe la longueur, c'est le sens du rythme. Et ça, moi je suis obsédé par ça. Et je suis incapable de faire des livres rythmés longs comme ceux de Fred, parce que ça c'est un talent très très particulier, c'est-à-dire d'arriver, de vous en... Et dans ce cas-là, c'est très rock'n'roll ou très jazz, il faut que le tempo prime sur cette ambiance que toi tu installes. Toi tu es capable de l'installer en 5-6 phrases, un paragraphe, moi j'en suis incapable, donc il me faut que je trouve 2-3 mots simplement pour dire ça. C'est une autre manière, c'est dire que toi tu serais chanson française, moi je serais jazz, mais chanson française, là c'est
bras. Vas-y, le mépris.
Non, mais attends, quand j'y suis rentré, je parle de
Barbara.
Non, mais, non, mais quand j'y suis rentré, je dis, oh, c'est Barbara Brassens. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que c'est passé par impuissance.
Non, mais.
Fred, une minute.
Nos discussions sans fin.
Ah, parce que vous êtes toujours sur ces genres de discussions.
Ah, non, non,
ça m'ennuyait d'une seule phrase, moi-même.
Ouais.
Dans le livre, là, je repars en arrière et je passe une autre vitesse. Je repars en première sur une côte parce que je me dis, là, on va. Donc, c'est, évidemment, non. Même s'ils sont plus longs, mon grand, surveille le rythme.
Mais non, je te parle.
On va s'engueuler sur
ce Je ne dis pas.
Non. Parce qu'en plus, vous allez dîner après ensemble.
Attendez, là, il ne faut pas qu'il y ait le quiproquo. Quand je dis que je suis incapable, comme Fred Vargas, comme Dostoïevski, d'installer un rythme sur une longueur, j'en suis vraiment incapable. Donc, conscient de mon incapacité à faire ça, je suis obligé de le faire serrer. C'est pas la même chose. C'est que si j'étais capable de m'étaler sans embêter les gens, c'est-à-dire que, en gardant ce tempo, que je trouve que très peu d'auteurs français réussissent à tenir. Toi, tu comprends.
Notons qu'en point commun avec Patrick, l'auditeur aura noté une propension à l'autocritique
infernale.
Incroyable.
Ouais. Tout à l'heure, vous avez écrit une merde. Le premier livre était une merde. Linéaire, c'était pas possible.
Et là aussi, c'était. Non, mais ça, c'est brisant. On en revient au poker. Le poker, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on a un jeu, qu'il soit bon ou mauvais, c'est pas grave. C'est comment on l'utilise. Ben là, ce que je viens d'expliquer par rapport à l'écriture, c'est pareil. Bon, moi, j'ai un mauvais jeu sur la longueur. Alors, j'utilise d'une certaine manière. Et je fais court, mais dans ce court, j'y mets un maximum de rythme. C'est que suivant...
Ouais, c'est assez intéressant, parce qu'en plus, vous avez choisi un personnage, Turner, avec un nom de peintre, qui est un joueur et qui joue à une sorte de poker menteur, systématiquement.
Bon, c'est un joueur. Il est joueur, mais il est joueur pas simplement au poker. Il est joueur dans la vie de tous les jours. Il est joueur, mais c'est un peu une métaphore de notre monde, évidemment.
Évidemment.
Voilà, je me rends du monde. Et comme aussi notre monde est séduisant, apparemment séduisant, même s'il nous mène à la mort et s'il va à la mort, il fallait que Turner soit séduisant. Par exemple, en parlant de séduction, là, il y a une émission concurrente à la vôtre en ce moment, c'est Canal+.
C'est impossible.
Non, Canal+.
Je vois pas ce que vous voulez dire.
Ça, c'est le spectacle. Et, ouais. Et en fait, c'est bon, c'est rien. Et,
vous êtes trop aimable.
Non, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Je veux dire que ça peut être brillant, séduisant, comme Turner. Bon, sauf que comme je suis romancier, Turner, je lui ai mis une âme. Donc, c'est pour. Bon, on va pas raconter la
romancier, fin. Romancier, surtout pas la fin. Romancier et peintre, c'est pour ça aussi que vous avez choisi ce nom de Turner.
Oui et non, ouais, parce que d'abord, j'aime beaucoup, un petit peu, mais pas que. Bon, j'aime les peintures de Turner, son classicisme, j'adore sa lumière surtout. Et aussi, en venant au héros de Turner, c'est à cause d'une chanson des Stones, parce qu'il ressemble à Mick Jagger, c'est Memo from
Votre personnage Turner. Ressemble à Mick Jagger, hein, pas Turner, qui lui ressemblait à rien.
Non, pas du tout. Ouais. Non. Et donc, c'était aussi à cause de ces deux références-là.
Très bien.
Ou lui ouvre la fenêtre et en tombe amoureuse.
C'est-à-dire que c'est presque métaphysique, c'est-à-dire que c'est le mouvement d'une pensée ou le mouvement des situations, et après ça, il tâtonne.
Merci à tous nos invités. Fred Vargas, Temps glaciaire, apparu chez Flammarion. Patrick Mosconi, On ne joue pas avec le diable, c'est aux éditions Calmann-Lévy. Le Festival international du roman noir de Frontignan se déroulera du 22 au 28 juin. Et Minuit, le premier album, il faudra attendre septembre. En attendant, ils joueront en première partie du concert de Gaëtan Roussel à la Philharmonie de Paris le 8 juillet. Et puis toutes les autres dates, parce qu'il y en a d'autres, sont sur le site de l'émission. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Rap machine depuis midi, puis le rap a rendu riche, je lui dis, ich le bedich. Quand je vois des MC, je me lèche les babines, puis l'époque des bobines, je les tue en cabine. Flow carabine, je les shoot à ma guise, ça m'attire, ça m'amuse de sortir la machine. J'ai le flowmatique qui automatiquement, MC on me dit que tu mens. Bête de bombe 6, album numéro 10. C'est de la bête de bombe. Ça fait brrrr, j'te ken.
Chiki, 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 Demain, dernier volet de notre série 40 ans de chansons françaises, une émission Rap Machine avec le rappeur Diziz que vous venez d'écouter et l'écrivain Karim Madani. Et des annonces, Elsa?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, avec cette Wendeuil et Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Spes, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Élise Leu et Anthony Thomasson, et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, et c'est bien.